Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis au cloître Sainte-Corneille à Compiègne en compagnie de Bernard de Bargue, qui a publié un livre sur la forêt de Compiègne qui s'appelle La forêt dans tous les états. Bonjour Bernard. Pourquoi déjà ce titre ?
Ah, alors ce titre, en fait, c'est une déclaration à la fois d'amour à la forêt et dans sa complexité. Je voulais en fait restituer par l'écrit tout ce que j'observe depuis que je suis né, puisque j'ai eu le bonheur de naître à deux pas de la forêt de Compiègne. J'y ai appris à marcher et j'y suis extrêmement souvent. C'est vraiment mon lieu de vie. Mais j'y ai trouvé énormément de choses que je ne connaissais pas, de découvertes. Je suis très curieux. J'ai lu beaucoup d'ouvrages et il y avait plein de blancs, plein de trous, plein de choses, des questions que je me posais auxquelles je ne trouvais pas de réponse. Et ça interrogeait aussi bien la diversité végétale que la diversité animale, que les utilisations qu'en ont eu les humains dans le passé, mais qu'ils en ont aujourd'hui. Et surtout, le chapeau de tout ça, c'était la nécessité d'essayer de dresser une espèce de portrait de la forêt dans sa grande beauté qu'elle a aujourd'hui, en sachant que cette beauté est malheureusement extrêmement en danger à cause du réchauffement climatique. Et donc, c'est pour ça que je voulais la décrire dans tous ses états.
Il y a quoi comme chapitre, en fait, dans ce livre ? Parce que, bon, là, on l'a pas sous les yeux, mais est-ce que vous pouvez décrire un peu ce livre ? Après, vous nous parlerez de l'état de la forêt.
Alors, justement, le chapitrage a été un point de départ. J'ai voulu raisonner sous forme de questions-réponses. Je suis journaliste, je travaille au Courrier Picard, et j'adore mener des enquêtes. Alors, je ne suis pas dans le fait divers.
C'est une enquête, donc.
Ouais, c'est une vraie enquête. Je voulais vraiment investiguer. Chaque fois qu'on me déclarait une information, je voulais m'assurer de la réalité, de la pertinence, éventuellement de la contradiction qui existait sur cette affirmation. On est dans un milieu que tout le monde aime. Les chasseurs aiment la forêt, les exploitants forestiers aiment la forêt, évidemment les promeneurs tout autant, mais chacun attend quelque chose de spécifique de la forêt. Et bien souvent,
les chasseurs
évidemment aussi adorent la forêt, on ne peut pas leur enlever ce plaisir d'être en forêt. Mais ils en attendent chacun évidemment quelque chose de très particulier, souvent en opposition avec les autres, et ça me pose énormément de questions. Donc j'ai chapitré mon livre avec 14 questions que j'ai appelées des questions qui fâchent, parce que j'ai décidé d'y aller franco, d'agresser entre guillemets, mais au niveau purement sémantique, au niveau intellectuel, au niveau du débat, bien évidemment, d'agresser chacun sur ce qu'il fait, sur ce qu'il ne fait pas, sur ce qu'il pourrait faire, et de poser vraiment des questions qui fâchent. C'est comme ça que je les ai nommées. Donc il y a 14 chapitres qui sont sous forme de questions qui fâchent.
Quel type de questions ? Vous n'allez pas nous donner les 14, mais vous pouvez nous en citer quelques-unes.
Ah oui, alors je vais commencer par celle qui fâche facile. Pourquoi la chasse à courre n'est-elle toujours pas abolie en forêt de Compiègne ? Ça, c'est une question évidemment que beaucoup de gens se posent. J'ai essayé de trouver des éléments de réponse, d'arbitrage, de compréhension de ce phénomène. Pourquoi cette pratique séculaire reste aujourd'hui extrêmement présente en forêt de Compiègne ? Une autre, beaucoup plus anecdotique, celle-là, mais je me la pose depuis que j'étais gamin et j'ai voulu vraiment profiter du bouquin pour essayer d'y trouver un élément de réponse. Combien y a-t-il d'arbres en forêt de Compiègne ?
Ah oui, bon, alors ça, c'est une sacrée question.
Il n'y a évidemment pas de réponse.
On ne peut pas y répondre.
En soi, évidemment, il n'y a pas d'inventaire quotidien, mais au moins d'avoir une évaluation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, là aussi, ça mettait le doigt sur plein d'approches différentes. Par exemple, de dire que les forestiers, les exploitants, ceux qui assurent la gestion de la forêt, ne comptent pas les arbres. Ils comptent les mètres cubes. La seule unité d'œuvre qu'ils connaissent pour arriver à quantifier l'espace, c'est du cubage. Du cubage, bien évidemment, de bois de transformation, de bois de façonnage.
C'est l'économie, quoi.
C'est que de l'économie qui domine, évidemment. Et ça, c'est quand même des révélations, parce que ça illustre finalement des modèles de pensée. Et quand on est dans la forêt, on raisonne différemment à partir de ces informations-là. J'ai donc voulu les compiler.
Vous avez pu faire une estimation du nombre d'arbres ?
Oui.
Alors ?
Alors,
vous
c'est forcément
nous donner la réponse.
Oui, bien sûr. De l'ordre de 9 millions, à peu près, d'arbres.
Vous avez calculé comment ?
Alors, j'ai utilisé les ratios qui sont produits par les organismes institutionnels, en particulier l'Inventaire forestier national, qui est l'organisme de référencement de toutes les parcelles forestières du territoire français, les privés comme les communales et comme les domaniales. Et donc, il y a un certain nombre de grilles d'analyse qui permettent de savoir combien il y a de plants au mètre carré en fonction des essences. Bien évidemment, ça change. En fonction de l'âge également, ça change. Donc le chiffre en lui-même n'a pas un énorme intérêt. J'aurais dit 90 millions. Ça ne vous aurait pas plus choqué parce qu'en fait, personne n'en sait véritablement rien.
Non, c'est tellement énorme en fait. Donc on a
c'est énorme, mais ça nous met en perspective, par exemple, les chiffres qu'on nous donne tous les ans sur le niveau de prélèvement, le niveau de coupe de bois. On nous annonce tous les ans un cubage de mètres cubes en nous disant cette année on a récolté 50 000 mètres cubes, 80 000 mètres cubes. pareil, on n'a aucun élément tangible qui nous permette de le rapprocher. Donc j'essayais de dire, ben voilà, ça fait en moyenne tant d'arbres. Parce que ceux-là, on les voit, nous, quand on se promène au bord des chemins, on les voit alignés, oui, coupés en randonnions, on est choqués. Mais est-ce que c'est réellement quelque chose qui a une prédation sur l'espace naturel? En clair, on est en train de venir prélever le capital, ou est-ce qu'on est juste en train de prélever finalement les intérêts, que c'est la croissance naturelle de la forêt, en volume à peu près équivalent, qu'on est juste en train de récolter? Et je voulais justement aller au bout de la question.
L'état de la forêt, alors vous en pensez quoi aujourd'hui? Bon, évidemment, il y a le réchauffement climatique, il y a plein d'arbres qui se cassent les figures, hein, ça on le voit aussi. Et il y a plein d'arbres qui sont malades, enfin bon, voilà. Vous en pensez quoi?
Alors, il est au pire de ce qu'il a été, du vivant, c'est-à-dire de notre vivant, on va dire dans le dernier siècle, a posteriori des deux guerres mondiales peut-être. On n'a pas d'éléments référentiels suffisants pour dire que dans le passé de 300-400 ans et plus, elle n'a pas déjà été dans ce cycle-là. Ce qu'il y a évidemment qui nous choque, c'est qu'on le voit et qu'il y a surtout une association d'éléments de conflits qui pèsent, ce que j'appelle des calamités dans mon bouquin, j'en ai dénombré 10, qui convergent simultanément et dans laquelle, effectivement, quand on le regarde avec un peu de sérénité, un peu de calme, en tout cas, pas à défaut de sérénité, montre que le réchauffement climatique n'est que l'élément déclenchant d'une réaction en chaîne qui fait qu'aujourd'hui, à mon avis, ça n'est qu'une assertion mais je la mets au débat, la forêt n'est plus en capacité d'encaisser ces mutations à cause du réchauffement climatique qui finalement lui a enlevé ses résistances immunitaires. La forêt était parfaitement capable dans le passé de résister par elle-même, de s'adapter, d'être résiliente comme on le dit. Mais aujourd'hui, le réchauffement climatique a fait exploser cette gaine de sécurité que la forêt pouvait gérer d'elle-même. Et donc, aujourd'hui, la forêt est quand même la forêt telle qu'on la connaît, parce qu'il y aura une forêt, évidemment, après nous, mais ça sera une forêt qui sera vraisemblablement très différente en termes de forme, de taille, de variété d'essence également, mais celle que l'on connaît aujourd'hui, qu'on a connue de notre vivant, nos parents et nous-mêmes, sur deux générations, sera très différente et elle est en grand danger.
Donner combien de temps à cette forêt de Compiègne?
L'éternité.
Parce qu'elle se régénérera de toute façon.
Je suis du côté du positif et j'espère qu'elle a l'éternité devant elle, ce que nous n'avons pas. Il faut savoir, par exemple, c'est aussi des informations qui sont intéressantes à connaître, c'est que les arbres n'ont pas en eux-mêmes de gènes de dégénérescence. Ça n'existe pas dans l'ADN de l'arbre, contrairement à l'ADN humain.
Ils peuvent choper des maladies, mais venant de l'extérieur.
Voilà, exactement. Que des éléments exogènes, effectivement, la foudre, le froid, le gel, la chaleur, les écarts de température, le manque d'eau, c'est l'élément le plus important et qui aujourd'hui est mis en avant par le réchauffement climatique, bien évidemment. Mais la foudre, le vent, bien évidemment, les champignons, les insectes et l'acide de l'homme, bien sûr.
Et les animaux là-dedans, vous en pensez quoi?
Ah, j'en pense que du bien.
Qu'est-ce qu'ils deviennent dans cette forêt,
les animaux? Ils souffrent aussi énormément parce qu'en fait, ils en sont excessivement dépendants, essentiellement pour une chose, c'est la protection. Si la plupart des espèces animales vivent en forêt, c'est parce qu'elles y trouvent le gîte et le manger. C'est pas pour autre chose. Je vais prendre l'exemple des cerfs. On l'illustre évidemment très souvent parce que c'est un peu l'emblème de la forêt. Mais c'est un animal qui est un prédateur de la forêt. Les cerfs mangent, on dit, le terme c'est abrutir, mangent les jeunes plantes. C'est dans leur bol alimentaire. Ça fait partie de leurs caractéristiques naturelles. Donc, on n'a pas à s'opposer à cela. C'est la nature qui le veut, qu'ils aient ça à manger. Mais leur niveau aujourd'hui en volume peut poser problème par rapport à la régénération naturelle. Sauf que, par le phénomène de la régulation, ce qu'on appelle vulgairement la chasse, on a évidemment fait, là encore, une prise en compte, une emprise plus précisément sur le domaine de la forêt, sur la nature, tout simplement, sur sa liberté, sur ses équilibres. On a enlevé un prédateur qui était le loup et on l'a remplacé par l'excès, par un prédateur qui est l'homme, qui régule à sa façon en fonction de ses intérêts et pas en fonction des intérêts de la forêt. C'est complètement idiot de dire qu'on régule les espèces et le cerf, par exemple, en particulier, pour rétablir des populations. C'est faux parce qu'on ne sait pas exactement quel est le niveau de la population. On n'a aucune mesure exacte. En particulier du niveau des sexes, c'est-à-dire quelle est la population mâle, quelle est la population femelle, est-ce qu'on est dans une capacité normale, pour assurer les phénomènes de reproduction qu'on connaît spectaculairement à l'occasion du brame, bien évidemment, qui est très propre au cerf.
Comment se procure-t-on votre ouvrage?
Eh bien, on se le procure selon
la librairie.
Non, non, justement. Voilà. Non, non, je suis resté très, très fidèle en fidèles et petites amitiés sincères avec la librairie des Signes à Compiègne. Donc ça, c'est un lieu de vente.
C'est une bonne adresse.
Physique, n'est-ce pas? Avec Camille qui a soutenu le projet dès son début, qui m'a beaucoup aidé psychologiquement dans ce travail. C'est mon premier livre.
Ah, bravo. On va vous dire bravo. Il y en aura peut-être un second.
J'espère, un deuxième volume après. Et on le trouve également par mon intermédiaire directement. Je suis très présent sur les réseaux sociaux et j'invite évidemment les auditeurs de RVM à rejoindre, s'ils ne le connaissent pas, la page Facebook qui s'appelle Nous aimons la forêt de Compiègne, que j'ai le plaisir d'animer, que j'ai créé il y a 4 ans et que j'anime encore. On est un peu plus de 1200 aujourd'hui à la suivre. Et donc par cet intermédiaire, c'est très facile de rentrer en contact avec moi et je peux, même si les gens ne veulent pas se déplacer et que je n'ai pas l'occasion de les rencontrer, ce qui est toujours pas contre un plaisir, eh bien, leur envoyer l'ouvrage par la poste. Il n'y a aucun problème pour
d'accord.
ça.
D'accord. Vous faites partie d'associations de protection de la forêt?
Oui, de plein d'associations.
Ah, oui.
Et oui, parce qu'en fait, dans toutes les associations, ça aussi, c'est un parti pris que j'ai voulu avoir, qui me distingue pas mal d'ailleurs de plein de collègues et d'amis, c'est que je considère qu'il y a des gens intelligents partout. À quelques exceptions près. On va être quand même.
Voilà.
Mais du côté de la protection de la nature, j'y ai trouvé des gens pertinents, intelligents de partout. Donc, pour le plan local, nous avons deux associations qui sont agissantes sur le territoire de la forêt de Compiègne. L'une qui s'appelle la Sauvegarde du patrimoine des forêts du Compiénois, la SPFC, qui est la plus ancienne, et l'autre qui s'appelle Oise Nature. Mais nous sommes deux. Je crois que nous ne sommes que deux adhérents, être à la fois adhérents de l'une et de l'autre, parce que c'est souvent des histoires de chapelle. Les associations se sont distinguées par des prises de position parfois opposées sur certains sujets, et elles sont restées en l'état. Donc c'est bien dommage. Je préférais bien sûr qu'il y ait une grosse coordination, parce qu'on a face à nous des gestionnaires qui sont, eux, par contre, très omnipotents, très décisifs, très décisionnaires, et qui jouent forcément un peu de ces divisions des citoyens.
Très bien, mais merci beaucoup Bernard de Bargue et puis bonne conférence à vous.
Merci beaucoup de votre accueil et aux auditeurs d'RVM, bien sûr. Glasgow 2000 and I'm standing in a field.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais avec Bernard Debargue, qui est compiégnois et qui est l'auteur du livre La forêt dans tous ses états, autour de la forêt de Compiègne. Donc, ce livre peut être trouvé à la librairie des Signes de Compiègne et vous pouvez également le contacter par internet sur les réseaux sociaux. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.